Europe 1.
Il est clair, madame, que nous ne serons d'accord sur rien.
15h, 16h sur Europe 1.
Nous attaquerons la tombée de la nuit.
Historiquement vôtre.
La Sothéa.
Molière, il faudra reprendre.
A successor to the kings and queens of history.
On va écouter donc comment on le fait chaque fois, madame Soleil. Le principe, c'est simple. On lui donne votre jour de naissance, votre heure de naissance. On lui dit pas qui vous êtes.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, alors qu'ils vont faire leur entrée au Panthéon dans quelques heures, je vous raconte deux étrangers, deux Arméniens qui, aux côtés de quelques autres communistes engagés, ont choisi de défendre la France de l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale, ou la véritable histoire de Méliné et Missak Manouchian, des résistants au Panthéon. Quelle a été leur action sous l'occupation? Pourquoi le rôle des étrangers de France dans la résistance a-t-il longtemps été voilé? Quelles ont été les différentes étapes qui ont mené à la panthéonisation des époux Manouchian? Pour répondre à ces questions, et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord celui qui publie la biographie des époux Manouchian. Bonjour Gérard Streff.
Bonjour monsieur, merci.
Merci à vous d'être là. Missak et Méliné Manouchian feront tout à l'heure leur entrée au Panthéon. Gérard Streff, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Eh bien, on va dire enfin, parce que 80 ans, c'est long. Enfin, ces étrangers, ces résistants, ces communistes sont reconnus. Donc, alléluia.
À vos côtés, Gérard Streff, j'ai le plaisir d'accueillir le président d'Unité Laïque. Bonjour, Jean-Pierre Sakoun.
Bonjour, Stéphane Bern.
Unité Laïque a œuvré pour faire entrer Missak Manouchian au Panthéon. Je vous pose la même question. Qu'est-ce que cette panthéonisation des époux Manouchian représente pour vous ?
Tout d'abord, la satisfaction d'avoir accompli un devoir de mémoire que Missak appelait de ses voeux dans la dernière lettre qu'il a écrite à Manouchian. Je sais que le peuple français et les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ben voilà, nous l'avons fait. Et ensuite, la satisfaction du devoir accompli parce que c'est 3 ans de travail acharné, de conviction, de stratégie, de... Et voilà, ça a marché et je crois que ça reste dans la vie d'un homme.
Oui. Gérard Streff, vous publiez aux éditions de l'Archipel Missak et Méliné Manouchian, un couple en résistance, dont vous signez la postface d'ailleurs, Jean-Pierre Sakoun. On va continuer à en parler ensemble juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 3 juin 1943. Un soleil printanier réchauffe Paris et le cœur des Parisiens. On en oublierait presque depuis 3 ans, la capitale vit sous le joug allemand. Dans les rues, les habitants flânent. 3 hommes déambulent dans le quartier de l'église d'Auteuil. Ils ne semblent pas se connaître. Rien ne les distingue des autres passants. Juste avant 18h, un autocar se présente à l'angle des rues Wilhelm et Mirabeau. Il transporte des officiers subalternes de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, depuis le bassin d'Auteuil jusqu'au ministère de la Marine situé place de la Concorde. Toutes ces fenêtres sont grillagées et 2 sentinelles armées de mitraillettes se tiennent debout sur les marchepieds extérieurs. Lorsque tout à coup, un des 3 promeneurs saute sur le marchepied de droite. À la main, il tient une grenade dégoupillée. De l'autre, il immobilise la sentinelle armée. Il fracasse le pare-brise arrière de l'autocar en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La vitre vole en éclats et l'homme lance sa grenade à l'intérieur. Aussi vite, il saute du marchepied, entraînant la sentinelle avec lui. Il se relève aussitôt et se met à courir vers l'église d'Auteuil. Sans se relever, la sentinelle mitraille le fuyard et le blesse au pied. Il ne peut plus courir et poursuit son chemin en clopinant. La sentinelle se relève et s'apprête à tirer à nouveau sur sa cible, mais à 3 mètres de lui, un homme armé d'un revolver lui tire dessus par 3 fois. Tout près, on entend une explosion suivie du bruit de l'autocar qui s'écrase contre un platane. L'homme blessé s'effondre sur le trottoir. Quand la seconde sentinelle vise l'homme au revolver, celui-ci se retourne et l'abat. Puis il vient en aide à son camarade au sol. Il faut faire vite. 2 agents de police approchent. L'homme au revolver montre son arme, il ne tire pas, mais leur ordonne d'entrer dans une cour aux 3 rue Lecomte de Lille où il les enferme. Il n'est pas là pour tuer des Français. Les rues alentour résonnent des sirènes. Les 3 hommes, membres des francs-tireurs et partisans, doivent fuir. Mais l'homme blessé ne peut plus marcher.
Il sort son arme et se tire une balle dans la tête. Ses camarades regardent son sang s'écouler lentement sur le trottoir. Pour ne pas risquer d'être torturé et de trahir, leur camarade de lutte a choisi de ne pas tomber entre les mains des nazis. S'ils ne bougent pas, c'est ce qu'il va leur arriver. Alors, Marcel Rajvan et Arsène Tchakarian, ce sont leurs noms, courent et s'engouffrent dans la station église d'Auteuil et dans la première rame de métro qui passe. Les deux font partie du mouvement FTP-MEI, un mouvement de résistance intérieure française formé par la main-d'œuvre immigrée que dirige Missak Manouchian. C'est l'histoire de ce résistant et celle de son épouse Mélinée que je vous raconte cet après-midi, à quelques heures de leur inhumation au Panthéon et de l'hommage solennel qu'il aurait rendu à l'occasion des 80 ans de l'exécution de Missak Manouchian. Mélinée Soukémian, avant d'être Manouchian, est née le 13 novembre 1913 à Constantinople, dans l'Empire ottoman, dans une famille aisée de fonctionnaires. Elle n'a donc que 2 ans quand commence le génocide des Arméniens organisé par les Jeunes Turcs, le parti alors au pouvoir. Massacres, déportations, famines se succèdent et coûtent la vie à 1 200 000 personnes, dont ses parents. Elle est recueillie avec sa sœur par une mission protestante de Smyrne, dans l'actuelle Turquie. Les Arméniens n'y sont pas en sécurité. Elle est donc envoyée dans un orphelinat en Grèce, alors sous protectorat anglo-français. La vie est difficile et elle rêve de France. Ce n'est qu'à 13 ans qu'elle arrive à Marseille. Nous sommes en octobre 1926 et Mélinée est prise en charge par une institution franco-arménienne. Puis en 1928, elle part au Rincy. Après son certificat d'études, elle entame une formation de secrétaire comptable et sténodactylo. Dans son bulletin scolaire, on peut lire « intelligente mais esprit rebelle et semeuse de troubles ». Ça tombe bien, un autre esprit rebelle est arrivé à Marseille 2 ans plus tôt. Il s'appelle Missak Manouchian. Missak, lui, est né le 1er septembre 1906 à Adıyaman, dans l'actuelle Turquie. Il est le 4e et dernier enfant d'un couple de paysans catholiques arméniens. Dans cette région, qui fait alors partie de l'Empire ottoman, vivent de nombreux Arméniens, jusqu'à 2,5 millions, selon certaines estimations. Le père de Missak est tué, les armes à la main, pendant le génocide, et sa mère meurt de faim et de misère peu après. Ces années de violence forment le quotidien du petit Missak, partout la haine, la peur et la souffrance. Pourtant, Missak et son frère Garabed échappent au massacre grâce à l'aide d'une famille kurde qui les recueille. Puis ils sont regroupés avec d'autres enfants arméniens dans un orphelinat situé au Liban, alors sous contrôle français. Missak apprend le français tout en approfondissant sa connaissance de l'arménien littéraire. Il aime la poésie qu'il pratique dans la solitude et dévore les livres. Mais il lui faut apprendre un métier. Ce sera menuisier. À 17 ans, il commence à travailler à Beyrouth tout en rêvant de la France lui aussi. Alors avec son frère, il met les voiles vers le pays des droits de l'homme. La France, c'est la terre du peuple qui se rebelle et renverse l'oppresseur. La terre de tous les possibles, des espérances vécues et des rêves réalisables. Avec une promesse d'embauche et un passeport Nansen qui permet aux réfugiés apatrides de passer les frontières, Missak Manouchian débarque à Marseille à la fin de l'été 1924, avant de gagner Paris. C'est à Paris que Mélinée s'installe aussi, rue de Louvois, dans le 2e arrondissement. C'est alors qu'elle se lie avec la famille Aznavourian, des réfugiés arméniens comme elle. Le jeune Charles n'a pas encore fait parler de lui, mais sans doute se voit-il déjà en haut de l'affiche. Missak s'installe lui dans le 14e arrondissement, dans une chambre d'hôtel de la rue Vercingétorix, puis rue des Plantes. Il est embauché à l'usine Citroën où il découvre le monde ouvrier. Mais son frère est très malade et une partie de son salaire passe dans les frais médicaux. Dans la biographie qu'il consacre aux époux Manouchian, notre invité Gérard Streff explique que lorsque Garabed meurt, Missak pense perdre la raison. Tous les siens sont morts, il est le dernier des Manouchian. Quand la crise économique gagne la France, Citroën licencie. Missak est l'un des premiers à perdre son travail. Grâce à son physique idéal, il se fait à l'occasion modèle pour des artistes arméniens. Il passe de plus en plus de temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, pour lire ses auteurs favoris, Victor Hugo et Romain Rolland. Il s'inscrit en auditeur libre à la faculté de la Sorbonne pour suivre des cours de philosophie, de littérature, d'histoire et d'économie politique. Il crée une revue littéraire et il écrit. Il participe aussi aux universités ouvrières de la Confédération Générale du Travail Unitaire liés au Parti communiste. Ses poèmes disent ses tourments ainsi que ceux de tous les immigrés. Il dédie « Restons éveillés aux immigrés qui ne cessent jamais de travailler ». Attention, camarades, l'ennemi est toujours le monstre qui, comme la sangsue ou le ver rongeur, boit le sang de nos bras qui peinent sans arrêt, telle une hyène prête à tout dévorer. Missak devient communiste. Il fréquente plus que jamais la communauté arménienne, en particulier la section française du Comité de secours pour l'Arménie, le HOG, qui soutient l'Arménie soviétique. C'est au cours du gala annuel du HOG, organisé à la fin de l'année 1934, que Missak et Méliné, communiste elle aussi, se rencontrent pour la première fois. Elle tient la caisse et lui le bord de la piste. Grand timide, malgré son physique, il n'ose pas faire le premier pas. Quand il se lance, c'est la catastrophe. En dansant, il écrase le pied de sa partenaire, chaussée d'escarpins tout neufs. La valse terminée, Missak retente sa chance, mais non merci, un pied suffit. Si ça a mal commencé entre Méliné Soukémian et Missak Manouchian, les choses vont bientôt s'arranger. Oui, et elle s'arrange très bien même, puisque Missak Manouchian et Méliné Soukémian se marient le 22 février 1936. Que lit-on dans l'Humanité ce jour-là ? Que l'Espagne célèbre la victoire du Front Populaire et l'amnistie des prisonniers politiques. Que depuis 21 jours, les dockers charbonniers, grutiers, ensacheurs et camionneurs de Marseille défendent le droit syndical et leur contrat de travail en faisant grève. Ils sont soutenus par les petits commerçants, les paysans et les 61 syndicats de l'Union locale. Les patrons et les briseurs de grève ne vaincront pas. Cette année 1936 commence bien. Le 3 mai a lieu le second tour des élections législatives. Le scrutin donne la majorité à une coalition de gauche, le Front Populaire. Elle est conduite par un chef charismatique, le socialiste Léon Blum. À peine le gouvernement est-il installé que les grèves et les occupations d'usines, de chantiers, de magasins se multiplient dans l'espoir d'un renversement du système capitaliste. 2 millions de grévistes pacifistes et joyeux qui attendent la révolution. Mais 2 ans plus tard, le 12 novembre 1938, la Troisième République vote une loi permettant l'internement administratif des étrangers indésirables. Puis sous l'occupation, la loi du 26 septembre 1939 interdira les organisations communistes après la signature du pacte germano-soviétique. Elle sera suivie du décret du 18 novembre 1939 qui permettra l'internement de tout individu estimé dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Il faut mater ce que Pétain appelle les forces de l'anti-France, à savoir le juif, le communiste, l'étranger et le franc-maçon. Missak Manouchian est arrêté le 2 septembre 1939, avant même l'interdiction du PCF et la veille de la déclaration de guerre. Il est incarcéré à la prison de la Santé, puis libéré en octobre contre un acte d'engagement volontaire dans l'armée française. Manouchian a hâte d'en découdre avec les Allemands. Mais il faudra attendre, car il n'est chargé que de l'entraînement physique des futurs soldats. Après la débâcle qui met fin au combat et à la guerre pour la France, il est affecté à l'usine de moteurs Gnome et Rhône, située à Arnage dans la Sarthe. Il lui fausse compagnie début 1941 et rentre à Paris. Sur les murs de la capitale, on peut y lire de furtifs « Abat Pétain »,« Vive Paris » ou encore « Mort aux traîtres ». Mais il faut avouer que ces slogans sont rares. Ce sont eux pourtant qui retiennent l'attention de Missak. Il n'est pas seul. Il y a des gens donc qui, comme lui, veulent lutter contre le fascisme. Des camarades qui risquent leur vie en traçant ces slogans sur les murs de la capitale occupée. Ils se regroupent en réseau. Inexpérimentés, certes, mais efficaces. Le 21 août 1941, un militant communiste de 22 ans, Pierre Georges, le futur colonel Fabien, se rend au métro Barbès et abat le premier Allemand qu'il croise sur le quai, l'aspirant Moser. C'est le premier attentat meurtrier commis par la résistance à Paris. Cet attentat marque l'entrée du Parti communiste dans la résistance armée. Missak Manouchian, lui, est à nouveau arrêté en juin 1941 et emmené au camp d'internement de Royallieu. C'est un camp dans lequel l'armée allemande regroupe des prisonniers de guerre, le seul qui dépendent de l'administration allemande et non française. On y trouve des communistes, des syndicalistes, des résistants. C'est dans ce camp que les Allemands choisissent des prisonniers à exécuter pour se venger de la résistance. Missak et Méliné sont donc séparés. Mais Méliné est enceinte, elle décide alors de se faire avorter contre l'avis de Missak. Elle estime que la situation ne lui permet pas d'élever un enfant. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie attaque l'URSS. Méliné tape des tracts, des brochures qu'elle distribue ensuite dans Paris. et les villes à forte communauté arménienne. Missak est finalement libéré début septembre. Il rejoint les triangles arméniens du Front National, un groupe de résistants communistes fondé en mai 1941. On peut lire dans l'Humanité du 20 octobre « Ce qu'il faut, c'est l'union et l'action du peuple français aux côtés des autres peuples asservis, aux côtés des Anglais, aux côtés des héroïques soldats de l'armée rouge. » Au même moment, Jean Moulin arrive à Londres. Il présente la situation de la résistance et souligne la volonté de tous d'agir pour la libération de la France. Le général de Gaulle confie alors à Jean Moulin la mission d'unifier les différents mouvements de résistance sur le territoire français afin de créer une armée secrète dirigée par les forces françaises libres. En mars 1942, le PCF fonde le mouvement de résistance intérieure française nommé FTP pour francs-tireurs et partisans. L'une des sections est formée par la main-d'œuvre immigrée, la MOI, à moi, d'où le nom de FTP-MOI. Cette section regroupe de vieux militants communistes qui cohabitent avec de jeunes gens, parfois même très jeunes. C'est une véritable machine de guerre qui se met en route. Et très vite, Missak Manouchian va en prendre les commandes. Les FTP-MOI attaquent les Allemands en plein Paris et en plein jour. Chaque combattant fait partie d'une équipe de trois, le Triangle. Ils jettent des bombes et des grenades, mais ils ne possèdent que des armes de fortune, des explosifs de fabrication artisanale. Qui sont-ils, me direz-vous ? Des anciens des brigades internationales qui se sont battus pour défendre la République espagnole. Des républicains espagnols donc, des résistants roumains, bulgares, tchécoslovaques, polonais. Tous des étrangers amoureux de la France dont certains n'ont jamais touché un fusil ni manié d'explosifs. À partir de 1943, les actions de la résistance en France se multiplient avec succès et galvanisent les soldats de l'ombre. En juin 1943, l'organisation crée une équipe d'élite. Le Parti communiste demande au FTP-MOI d'intensifier la lutte armée et de monter des opérations de plus grande envergure. C'est là que Missak Manouchian prend la tête de l'organisation. Les FTP-MOI sont quasiment le dernier mouvement de résistance à Paris, car les autres ont été décimés. Ils sont une soixantaine de combattants pour environ une centaine de militants. Constamment en action, ils mènent une opération tous les deux jours en moyenne. Exécutions, attentats, attaques de véhicules, déraillements de trains de marchandises ou de munitions. Ceux qui ne portent pas les armes distribuent des tracts, collent des affiches, diffusent la presse clandestine. Eux aussi risquent d'être arrêtés et déportés. Et forcément, les représailles allemandes sont terribles. En avril 1942, par exemple, lors d'un procès organisé à la Maison de la Chimie, 26 militants communistes sont condamnés à mort et exécutés. En septembre 1943, les FTP-MOI repèrent une voiture bardée de fanions à croix gammée dans une cour. Un officier allemand sort. Persuadé qu'il s'agit d'un membre important de l'armée allemande, Missak Manouchian, en tant que responsable militaire, organise un attentat contre lui. L'équipe est composée de trois hommes. Marcel Rajmann, 20 ans, Celestino Alfonso, 27 ans, et Léo Kneller, 41 ans. Après plusieurs jours de planque, ils découvrent que le mystérieux nazi vit rue Pétrarque, dans le 16e arrondissement de Paris. Le 28 septembre, à 8 heures, les trois hommes sont en planque. Alfonso et Rajmann se tiennent de chaque côté du portail d'entrée du numéro 18. Léo Kneller surveille la rue. Ils sont armés, ils attendent. Ils n'en sont pas à leur premier attentat, mais ils sont tendus. Ils entendent leur sang battre dans leurs tempes. 8h15, toujours rien. Il faut rester en alerte. Et si la voiture ne sortait pas ce matin? Et si l'homme était accompagné de gardes du corps? Toute mission est dangereuse. Depuis que la résistance intensifie les actions contre l'occupant, les officiers allemands sont de plus en plus méfiants. Celui-ci sera certainement armé. Ils n'ont aucun droit à l'erreur. 8h30, le portail s'ouvre enfin. Une voiture arborant des fanions nazis sort en marche arrière. Celestino Alfonso fait aussitôt face à la vitre droite et tire sur l'officier allemand assis sur la banquette arrière du véhicule. Blessé, il tente de s'enfuir par la portière opposée, mais Rajmann l'achève. Puis les trois hommes s'enfuient. Leur plan a fonctionné à merveille. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de tuer Julius Ritter, Standartenführer chargé du service du travail obligatoire en France. Les obsèques officielles sont célébrées en l'église de la Madeleine. Sur ordre d'Himmler, ami de Ritter, les brigades spéciales des renseignements généraux se lancent dans la traque des assassins. C'est donc la police française qui pourchasse les hommes et les femmes, pour la plupart étrangers, qui luttent pour la libération de la France. Les brigades spéciales, dites BS, sont une police parisienne spécialisée dans la traque des ennemis intérieurs de l'État français, principalement les communistes. Elles dépendent de la Direction centrale des renseignements généraux et travaillent en étroite collaboration avec les polices allemandes. Du printemps 42 à la Libération, ces brigades procèdent à 1599 arrestations. La BS met en œuvre une vaste filature autour des FTP-MEI de la région parisienne. Joseph Epstein, chef des FTP de toute l'Île-de-France, est arrêté le 16 novembre 1943 à Évry-Petit-Bourg, ainsi que Missak Manouchian. En tout, ce sont 94 membres du réseau qui sont interpellés. Leurs armes et leurs munitions sont confisquées. Les FTP-MEI sont démantelés. Le Parti communiste n'aura plus les moyens de mener la moindre action armée dans la région parisienne jusqu'à la fin du printemps 1944. Manouchian est interrogé et torturé, mais il ne révèle rien sur le réseau dont il avait la charge. La police française et l'occupant allemand ne s'en tiennent pas à la répression. Ils mettent en scène le procès des principaux responsables qu'ils désignent comme de tristes héros qui se cachent sous la marque du patriotisme et qui chaque jour commettent de nouveaux crimes lâches et hideux. La propagande de la police clame qu'ils sèment la haine et le deuil et ne connaissent pas le sens des mots famille et patrie. C'est une parodie de justice organisée par les Allemands qui s'ouvre à l'Hôtel Continental le 15 février 1944. Les 23 accusés, 22 hommes et une femme, sont accompagnés d'avocats allemands. Ils ont entre 18 et 44 ans et tous sont condamnés à mort. Les Allemands décident de médiatiser ce qu'ils appellent l'action terroriste. Ils placardent une affiche à 15 000 exemplaires qui entrera dans l'histoire sous le nom d'affiche rouge. Comme le dira plus tard Aragon dans le poème qu'il lui consacre, elle cherche un effet de peur sur les passants. Sur fond rouge sang, on voit les photos de 10 hommes du réseau Manouchian, accompagnés de leurs noms et de leurs crimes. Xivak, juif polonais, 2 attentats. Elek, juif hongrois, 8 déraillements. Vajbrot, juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements. Vichis, juif polonais, 15 attentats, etc. Et enfin Manouchian, arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Malgré les efforts de la propagande allemande, on n'est pas parvenu à leur faire de sale gueule. On y voit aussi 6 photos d'attentats et de destructions qui illustrent le terrorisme qu'on leur reproche. En haut, on lit cette question « Des libérateurs ?» En bas, la réponse « La libération par l'armée du crime ». Le message est clair. Les étrangers, en particulier les juifs, tuent les Français. Cette campagne d'affichage joue les cartes de l'anti-bolchevisme et de la xénophobie pour décrédibiliser la résistance. Le crime, explique-t-elle, est dû aux étrangers. Il est au service du judaïsme et de Moscou. En ce début d'année 1944, l'affiche rouge ne touche pas son but. Voilà près de 4 ans que les Parisiens subissent l'occupation allemande. Le sort de la guerre ne fait plus de doute et la résistance française compte de plus en plus de partisans. Alors, sur les murs de Paris, sous l'affiche rouge, des slogans fleurissent, annonçant des jours meilleurs. Ils disent « Mort pour la France »,« Martyr » ou encore « Oui à l'armée de la résistance ». Les 22 hommes condamnés sont fusillés le 21 février 1944, il y a 80 ans jour pour jour au Mont-Valérien. Olga Banchik, la seule femme du groupe, est-elle décapitée le 10 mai 1944 à Stuttgart. Le 7 juillet 1946, au cimetière parisien d'Ivry, Méliné Manouchian assiste à l'inauguration d'un monument à la gloire des fusillés de l'affiche rouge. C'est elle qui se chargera de traduire et de publier les poèmes de son mari, qui n'a jamais cessé d'écrire. Et c'est aussi un poème, celui d'Aragon en 1955, qui nous rappelle aujourd'hui qui étaient ces hommes. Mis en musique par Léo Ferré, il sera interdit d'antenne jusqu'en 1982. La peur de l'étranger et du communiste à la vie longue.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Gérard Streff et Jean-Pierre Sagoun, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. L'histoire de Missak et Méliné Manouchian, c'est celle de deux apatrides victime d'abord du génocide arménien, un couple qui a vécu l'horreur et qui lutte pour ne pas sombrer. Que représentait pour eux justement cet engagement au sein de la résistance?
Ils sont... D'abord, bravo pour votre récit qui résume bien cette terrible histoire. Ce couple, d'abord, est francophile, francophone. Il est nourri d'une culture française très tôt. Et ils ont une image de la France, peut-être un peu idéalisée, mais en tous les cas, une image de la France, de la culture, de la politique, qu'ils veulent absolument rejoindre. Et ça sera une des moments formateurs de leur engagement. Missak voudra à deux reprises avoir la nationalité française. Ça lui sera refusé. Méliné l'obtiendra tout de suite après la guerre.
Jean-Pierre Sakoun, un mot justement, que représentait pour eux l'engagement au sein de la résistance?
Ça représentait ce que représentait la France et ce qu'elle représente encore très souvent à l'étranger, ce dont nous Français n'avons peut-être pas tout à fait conscience. Sur la place Tahrir, au Caire, les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles il y avait écrit 89, 1789. En 2014, sur la place Maïdan, les révoltés chantaient la Marseillaise. Nous oublions cela. Et dans les années 20-30, alors que tout le continent va sombrer progressivement dans la dictature, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, etc., etc., le seul pays, avec l'Angleterre qui n'est pas sur le continent, qui résiste à ça, c'est la France. Et donc, ils viennent en France, pas seulement parce que c'est le dernier endroit où il y a un peu de liberté, mais parce que c'est la France. D'autant plus que cette France, c'est celle qui a vaincu l'Allemagne en 18.
Gérard Streff, j'ai parlé dans mon récit de l'action de Missak Manouchian au sein de la Résistance. Par quel type d'action Méliné, son épouse, qui est très active également, s'illustre-elle?
Méliné participe à une organisation qui s'appelle le Travail Allemand. Le Travail Allemand consiste à essayer de s'en prendre à la machine de guerre allemande, soit par des sabotages, soit par des tentatives de désertion de soldats allemands. Alors, une des façons privilégiées, c'était de s'adresser à ce qu'on appelle les malgré nous. Il y aura des malgré nous qu'on connaît bien en Lorraine, en Alsace, mais il y aura des centaines de milliers de malgré nous dans toute l'Europe occupée, dont des malgré nous arméniens. Et ça va être une des tâches prioritaires de Méliné, d'entrer en contact, de les convaincre, de passer de l'autre côté. Et de ce point de vue, vous l'avez évoqué, c'est très très bien, mais c'est elle aura la complicité de la famille Aznavourian.
Elle a échappé à l'arrestation.
Oui. Oui,
comment vous l'expliquez?
Eh bien, elle est cachée chez les Aznavouriens, d'ailleurs, au moment de l'arrestation, absolument.
Avant d'être fusillée le 21 février 1944, il y a aujourd'hui 80 ans, Missak Manouchian écrit une dernière lettre à sa femme Méliné. Quels sont ses derniers mots?
Mais c'est une lettre absolument bouleversante. Parce que c'est une lettre d'amour, c'est une lettre d'un humanisme incroyable. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Enfin, ça c'est réécrit par Aragon, mais c'était tout à fait dans la lettre. C'est une lettre d'une lucidité et d'une hauteur de vue qui est fabuleuse.
Et justement, Jean-Pierre Sakoun, que ces mots vous inspirent-ils? Vous êtes, je le rappelle, président de l'association Unité Laïque. Les valeurs que vous défendez sont aussi celles des Manouchians.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont les valeurs de l'humanisme, ce sont les valeurs républicaines, ce sont les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et c'est ce lien que faisaient les communistes internationalistes en France dans les années 30 entre la Grande Révolution et la Révolution de 17, dont on sait aujourd'hui qu'il était hélas erroné. Mais pour eux, cette deuxième révolution était la continuation de la première. Et donc, il n'y avait pas d'impossibilité ni même de contradiction entre l'internationalisme et le patriotisme, particulièrement le patriotisme de la République et de la France. Et c'est ce que nous défendons, c'est-à-dire que nous défendons ces valeurs, ces principes et cette mémoire. Car la France, hors de notre pays, c'est beaucoup plus cela que ce qu'on tente d'en dire aujourd'hui.
Cette dernière lettre de Missak à Méliné, rédigée avant son exécution, est signé Michel. Qu'est-ce que Gérard Streff, ça raconte du rapport de ces deux déracinés finalement à leur terre d'accueil, la France ?
Déracinés et en même temps devenus français par cette expérience tout à fait incroyable de la guerre, de l'occupation, de la résistance. L'histoire de ce couple est très impressionnante quand on regarde par exemple la manière dont Méliné parle de Missak. Elle peut dire que son amour était débordant, était je dirais envahissant si le mot était pas un peu déplacé. Ils sont là dans un rapport de couple d'une fusion et en même temps elle avoue elle-même qu'elle est un peu impressionnée par cette passion de l'amant. Elle se demande si elle sera à la hauteur. D'ailleurs il dit dans la lettre: refais ta vie. Plus tard elle ajoutera: c'était impossible de faire ma vie, c'était trop tard.
Vous l'avez rappelé, Gérard Streff, après la guerre, Méliné Manouchian a été naturalisée française. Lui, Missak, ça lui a été refusé même avant de mourir.
Oui.
Être français représentait quelque chose d'important pour eux, mais pas forcément pour les autorités.
Écoutez, quand il y a le procès peu de jours avant, peu de jours, le jour de leur exécution, on sait que Missak interviendra en s'adressant aux Français qui sont dans la salle, donc plutôt aux collaborationnistes, et il dit: vous, la nationalité française, vous en avez hérité, nous l'avons mérité. C'est formidable.
Et Jean-Pierre Sacoun, qu'est-ce que ça représentait pour eux de devenir français ? C'est ce que vous disiez un peu, c'est-à-dire ils avaient en tête cette image de la France de 1789, c'était appartenir à cette grande histoire, au fond.
C'est la France des droits de l'homme, c'est la France qui n'est pas un pays dans lequel on est citoyen par le sang, la race, la religion, l'ethnie, mais dans lequel on est citoyen parce que nous sommes une nation politique et parce qu'on épouse les idéaux de la République. C'est aussi ce que nous avons voulu rappeler. Et dans cette lettre signée Michel, écrite en français au moment du plus grand trouble, il est arménien, elle est arménienne, on s'attendrait à ce qu'il écrive en arménien. Non, il écrit en français, il signe Michel. Il est là. Et pour ce qui concerne sa naturalisation, n'oublions pas que les deux fois où il l'a demandé, dont une fois en janvier 40, ce qui démontre sa volonté de devenir français, en réalité, il a obtenu un avis favorable. Simplement, ça ne s'est pas fait la première fois parce qu'il était au chômage et qu'on ne naturalisait pas des gens qui étaient au chômage. Il l'aurait fait 4 ans avant, il l'aurait eu. Et la seconde fois parce qu'il est communiste et qu'on est encore sous le coup du pacte germano-soviétique, donc on se méfie. Mais en réalité, tout était fait pour qu'il puisse devenir français.
Jean-Pierre Sacoun, dans la préface du livre de Gérard Streff consacré au couple Manouchian, vous expliquez que le rôle des étrangers de France dans la résistance a longtemps été voilé, sinon effacé. Après la guerre, l'histoire de la résistance commence à s'écrire. Pourquoi est-ce que les Manouchians et tous ceux qui, pour la France, se sont battus, ont parfois, et ont perdu la vie d'ailleurs, ont été exclus du récit ?
Alors, ils ne sont pas exclus du récit, ils sont mis en sourdine, on va dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont combattu. Simplement, en 1945, il faut reconstruire la France. Et les deux grands partis dominants qui reconstruisent la France, c'est le RPF, les gaullistes, et les communistes. Et les uns comme les autres ont besoin de reconstruire un récit national dans lequel il va falloir donner au sens propre un moral de vainqueur à des Français qui ont été brisés par la période 40-44. Et pour donner ce moral de vainqueur, il faut leur dire qu'ils étaient dans la guerre, qu'ils étaient les résistants. Donc on va mettre en sourdine les 20% de résistants étrangers des FFI, et puis on va mettre en sourdine les troupes coloniales pour les FFL, etc. On va mettre en valeur les Français de France. Mais on va pas oublier les autres, on va simplement un petit peu diminuer leur mérite.
Gérard Streff, quelle a été la vie de Méliné Manouchian après la mort de Missak ? Vous dites qu'elle n'a pas refait sa vie et elle en était incapable, mais au contraire, elle a œuvré pour faire vivre sa mémoire.
Oui, tout à fait. Peut-être encore un petit mot sur le débat qui venait de se tenir, sur l'effacement. Je rappelle qu'il y a ce poème d'Aragon en 55 qui est tout de suite mis en chanson par Ferré. La chanson de Ferré sera interdite à la radio jusqu'en 1982. Donc là aussi, les effacements sont de diverses natures et de divers messages, si je puis dire. Eh bien, après la guerre, elle obtient la nationalité française et puis elle répond favorablement à l'appel de l'Union soviétique, à sa diaspora, de venir aider à reconstruire le pays. Elle part en Arménie. Ce sera, à mon avis, un voyage très décevant pour elle, un séjour très décevant qui va durer jusqu'en 1963. Et elle va consacrer ensuite sa vie à ses mémoires, donc un livre en 1974 qui n'est pas inintéressant, et puis surtout à faire connaître la poésie de Missak.
Jean-Pierre Sakoun, c'est le 18 juin dernier que le président de la République a annoncé sa décision de faire entrer au Panthéon Missak Manouchian. Vous assisterez tout à l'heure à la cérémonie. C'est l'aboutissement d'un long combat pour vous. Pourquoi si long alors que aujourd'hui on sait que la panthéonisation dépend d'un seul homme, le président de la République?
Je crois que pour un grand nombre de raisons qu'on n'a pas abordées, qu'on n'aura pas le temps d'aborder, certaines ont été citées lorsque nous avons parlé justement de cette réticence à reconnaître entièrement les mérites des étrangers dans la résistance. Eh bien, le temps n'était pas venu. Il fallait que cela mûrisse encore. Et puis, le 80e anniversaire, lorsqu'il y a 3 ans, je me suis dit qu'il fallait absolument que nous le fassions pour ce moment-là, c'est aussi, 80 plus 20, 100, la fin des derniers résistants, la fin de ceux qui étaient les témoins. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais que cette chaîne ne soit pas rompue, que les derniers témoins puissent assister à cette action qui complète finalement l'éventail de ce qu'a pu être la résistance. Alors, on a travaillé 3 ans d'arrache-pied, de manière très organisée, mais on n'a jamais rencontré de réticence. Et finalement, ça s'est fait d'une manière assez fluide pour arriver à cette décision. Et le président de la République a joué le jeu.
Le 21 février 1944, 22 hommes ont été fusillés au Mont Valérien. En novembre dernier, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, un collectif composé de descendants de ces martyrs et d'intellectuels, parmi lesquels Edgar Morin, Delphine Orvillère ou Costa Gavras, demandait la panthéonisation de tous les martyrs du 21 février. Est-ce que vous considérez, Jean-Pierre Sakoun, que tous auraient dû entrer avec les Manouchians au Panthéon, où les Manouchians sont un peu, comment dire, emblématiques, et puis c'est le troisième couple aussi qui entre au Panthéon?
Alors, ce n'est pas un couple qui rentre au Panthéon. C'est
quatrième,
Miss...
oui.
Quatrième.
Quatrième. Il y a les Berthelot, il y a les Veil, et puis évidemment le Curie.
Voilà, les Curies. Mais alors, à la différence justement des Curies, ce n'est pas un couple qui rentre au Panthéon. C'est Missak, accompagné de Mélinée, comme Simone a été accompagnée d'Antoine Veil, comme Marcelin Berthelot a été accompagné de son épouse à la demande de la famille qui voulait que les corps ne soient pas séparés. L'écurie, en revanche, était un couple puisque tous deux sont entrés au Panthéon. Alors, pour revenir à cette polémique bien regrettable, elle n'a pas lieu d'être. C'est ne pas comprendre, et je suis fort étonné que ceux que vous avez cités, qui sont des grands intellectuels pour la plupart, ne le comprennent pas, c'est ne pas comprendre ce qu'est le symbole. En haut de la montagne de Sainte-Geneviève, tout est symbole. Mmh. Et on ne fait pas rentrer 23 personnes au Panthéon. Ça n'est pas un cimetière. C'est un lieu du symbole républicain. Ce qui se serait passé, si on était allé dans ce sens, c'est finalement la pose d'une plaque sur un mur. Or, ça n'a pas beaucoup de valeur comparé au symbole que représente l'entrée d'un tombeau au Panthéon. Et donc, nous avons obtenu les deux. C'est-à-dire que lorsque nous avons rencontré le 16 juin le président de la République, qui nous a annoncé 2 jours à l'avance sa décision positive, je lui ai personnellement demandé que le cercueil de Missak et celui de Mélinée soient accompagnés d'une inscription avec les noms des 23 et le nom de leur chef que vous avez cité tout à l'heure, Joseph Epstein. Il a donné son accord immédiatement et c'est donc bien Missak accompagné de Mélinée, les 23 et Joseph Epstein et plus encore tous les étrangers de la résistance qui rentrent au Panthéon, mais dans un cadre évidemment symbolique.
Un mot pour terminer sur un symbole, l'affiche rouge placardée par les Allemands en 1944 et sur laquelle Missak Manouchian figurait. Elle avait pour but d'attiser la haine contre les terroristes, entre guillemets, étrangers, les juifs, les communistes. Mais elle a eu un tout autre impact, Gérard Streff. De quoi l'affiche rouge est-elle aussi devenue le symbole ?
Oui, absolument. Elle est devenue le symbole d'une résistance revigorée, finalement, dans ce printemps 1944, qui est tout près de la libération. Et vous l'avez bien noté dans votre récit, c'est-à-dire que cette affiche qui devait faire peur, eh bien voilà que des gens manifestaient leur sympathie, trouvaient que ces visages qui normalement devaient être laids, les trouvaient beaux, trouvaient que leur résultat d'expédition militaire était formidable, etc. Donc il y a eu vraiment un retournement, un début de retournement de l'opinion à propos de cette affiche.
Mais merci beaucoup à tous les deux, Gérard Streff et Jean-Pierre Sakoun, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Méliné et Missak Manouchian, des résistants qui entrent donc tout à l'heure à 17h au Panthéon. Gérard Streff, pour en savoir plus encore, je rappelle que votre livre « Missak et Méliné Manouchian, un couple en résistance » est publié aux éditions de l'Archipel. Et merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous. Et vive l'histoire.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.